Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les hommes de glace de l'histoire. Je viens d'évoquer Richard Kuklinski, un impitoyable tueur à gages qu'on surnommait Iceman, l'homme de glace. J'ai pu en parler sans crainte de représailles, sachant qu'il est mort. Et les choses s'annoncent un peu plus compliquées pour vous, Mathieu, parce que vous avez choisi aujourd'hui de nous parler d'un homme de glace bien vivant, très puissant, le redoutable, quel bras long, hein, président russe Vladimir Poutine.
Écoutez, redoutable, c'est vous qui le dites, Stéphane. Hein. De même que c'est vous qui venez de dresser une comparaison plus que douteuse, je dirais choquante, entre un responsable politique démocratiquement élu, je vous le rappelle, et un tueur à gages. Faudra pas venir pleurer si demain au petit-déj, vous trouvez que votre thé a un drôle de goût.
Il y a une drôle d'odeur, vous trouvez pas?
Oui, c'est un Russian Earl Grey, saveur Novichok.
Non,
en étroite collaboration avec les snipers, les attachés d'ambassade du consulat de Russie à Paris, hyper sympa d'ailleurs, je vais m'employer cet après-midi à redorer un peu l'image faussée que vous autres... Je dois vraiment lire ça?
Non.
Oui, alors oui, l'image faussée que vous autres, connards occidentaux, avez de Vladimir Poutine. Un portrait qui devrait nous permettre de nous faire une idée plus juste de celui qui dirige la Russie avec maestria depuis 21 ans maintenant, et de déconstruire les allégations mensongères souvent colportées à son sujet, notamment par des gens peu recommandables comme Alexei Navalny, qui n'est pas du tout au Goulag mais à Center Parks, ou encore les Pussy Riots.
Connasse.
Comme vous dites, Stéphane. Как-то говоришь, конечно, c'est bien, Stéphane. Очень хорошо, le Novichok s'éloigne. Car aujourd'hui, les grincheux nous disent droits de l'homme, les grincheux nous disent droit international, que cherche-t-il, hein, à gâcher la fête, alors qu'une merveilleuse révision constitutionnelle, pas du tout téléguidée par le Kremlin, vient d'autoriser Poutine à diriger le pays jusqu'en 2036. En 2036, on dirait qu'il y a vraiment des gens qui n'ont que ça à faire, de critiquer.
Oui, c'est vrai.
Toujours les copains de Navalny qui ont cru malin, au lendemain de l'abrogation de la loi, de publier sur les réseaux sociaux une vidéo datant des années 2000 sur laquelle on peut voir Vladimir Poutine déclarer sa ferme opposition à ce qu'un président puisse rester au pouvoir plus de deux mandats. Ouais, peut-être, mais il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, hein. De toute manière, les soutiens de Navalny, hein, franchement. Souvenez-vous de la vidéo du soi-disant palais de Poutine. Quel crédit voulez-vous accorder à des gens qui ont cru faire un coup médiatique dénonçant l'opulence dans laquelle vivait le président en diffusant des images d'une pauvre bicoque qui faisait même pas le tiers de la maison de campagne de Stéphane à Tirongardé. Tout ça n'est pas sérieux, contrairement à Vladimir Poutine. Vladimir Vladimirovitch Poutine voit le jour à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, le 7 octobre 1952. Sa naissance est précédée de la mort de ses deux frères, Victor et Albert, nés au milieu des années 30. Selon Alexei Navalny, c'est Vladimir lui-même qui, encore à l'état de spermatozoïde, aurait réussi à commanditer, depuis le testicule paternel, l'assassinat de ses deux frères. Vladou, c'est comme ça que l'appelle sa babouchka, grandit dans un appartement communautaire. Oui, pour rappel, à l'époque communiste, le gouvernement avait décidé que les citoyens devaient vivre ensemble et avait donc réquisitionné tous les appartements privés pour les réaménager en appartements d'État dans lesquels sont entassés autant de foyers qu'il y a de chambres. Les colocataires communistes, les co-colocataires, comme les appellent les historiens, se partagent donc la cuisine et les sanitaires. Son cursus est un sans faute, un garçon tonique et sportif. Vladou décroche sa ceinture noire en judo et un diplôme en droit à l'université d'État de Leningrad. Si vous vous demandez d'où lui vient cette passion pour la justice et ce respect du droit qui l'anime dans toutes ses décisions, et bien de là. Et aussi un peu, il faut le dire, de ses années au KGB. Une agence de renseignement souvent caricaturée comme omnipotente et brutale, alors que si vous parliez russe comme moi, vous sauriez que les initiales KGB signifient comité pour générer le bonheur. Voilà. Or, ce qui anime Vladou depuis toujours, c'est ça, rendre les gens heureux. Il va enfin pouvoir concrétiser son rêve en devenant officier de renseignement au gentil KGB. Pendant près de 15 ans, jusqu'en 1990, il sera posté en Allemagne de l'Est, où il se fera passer pour un interprète. Jamais en 15 ans, il ne grillera sa couverture. Il faut dire que les méthodes de recrutement du KGB à l'époque étaient draconiennes. À son entretien, son chef lui avait dit...
Quand par exemple vous voulez parler allemand, il faut savoir parler allemand.
Ça déconne pas au KGB, c'était sérieux. En 90, Vladimir quitte l'Allemagne. Vous pouvez facilement deviner pourquoi, Stéphane.
Il n'aimait pas les saucisses bavaroises.
Non, c'est l'heure de prendre la retraite pour les agents de terrain du KGB qu'il quitte avec le grade de lieutenant-colonel. Il rentre en Russie avec à cœur l'envie de transmettre. Et oui, il devient vice-recteur de l'université d'État de Leningrad. Mais voilà, un autre destin l'attend, un destin politique. Oui, c'est la politique en Russie. Il commence discrètement en tant que conseiller d'Anatoli Sobchak, le maire de Saint-Pétersbourg, qui avait été son prof 20 ans plus tôt, une belle histoire. Il devient maire adjoint, mais pas longtemps, car Sobchak tombe pour corruption. Pas de problème pour Vladou qui sait rebondir. 1998, direction Moscou. En ces temps troubles, il arrive à se faire nommer directeur adjoint de l'administration présidentielle de Boris Yeltsin. Vous vous souvenez de Boris Yeltsin ?
Complètement bourré.
Voilà. Moi, perso, je me souviens surtout de sa petite fille, mais c'est une autre histoire. Un voyage scolaire en classe de 4e, un lit trop étroit. Le pire, c'est que c'est pas le 1% faux. Pendant que je fricote avec Ekaterina Yeltsin, Vladou, lui, continue d'intriguer. Il devient chef du service fédéral de sécurité, une branche de l'ancien KGB. Bref, le coquinou étend sa toile. Un an plus tard, à la faveur d'un remaniement gouvernemental, il devient Premier ministre. Ça y est, Vladou est dans la place et rapidement, sa cote de popularité explose suite à une opération militaire musclée qu'il lance en Tchétchénie contre des rebelles sécessionnistes. Opération de représailles car les Tchétchènes sont accusés d'être responsables d'une vague d'attentats assez terrible dans le pays. En tout cas, ça marche sur l'opinion publique qui s'entiche de Vladou et le porte au pouvoir lors des élections de mars 2000. Ses promesses, lutter contre la corruption et démanteler gentiment l'économie réglementée. Le bonheur et la prospérité ruissellent alors sur la Russie comme le runard sur les convives d'un dîner clandestin chez Stéphane Bern. Tout irait vraiment pour le mieux dans le meilleur des mondes si c'était ces petites tracasseries administratives, ces carabistous illégales qui empêchent notre bon Vladou d'enchaîner 3 mandats de suite. C'est vraiment trop con. On est si bien avec Poutine au Kremlin, s'exclame Roman Abramovitch sur son yacht de 70 mètres. Oui, mais quand même, si je peux me permettre... déclare le moujik de l'Oural, visiblement aigri d'avoir moins bien géré le passage à l'économie de marché que les oligarques, l'aigreur. Voilà ce qui pourrait faire du tort à Vladimir, qui trouve rapidement une combine discrète pour rester aux commandes malgré la loi sur les 2 mandats, mettre un pote à lui président pendant que lui reste Premier ministre avant de redevenir président le coup d'après. Bien joué Vladou, les 4 mandats à la suite. À la question « À qui appartient la péninsule ukrainienne de Crimée ?» tu as répondu « La Russie », c'est une bonne réponse. Tout réussi à Vladou, qui comptabilise donc aujourd'hui déjà 21 ans à la tête de la Russie. 21 ans, dans 3 ans, il aura fait aussi bien que Staline. Et grâce à la judicieuse réforme qui vient de passer à la Douma, Poutine pourra donc être président à l'âge de 83 ans, ce qui n'a rien d'impossible pour un type aussi en forme que Vladimir Poutine. Et la Russie, Stéphane, c'est tout simplement une autre culture. D'où le malheureux quiproquo qui divise la communauté internationale depuis des années, certains étant tentés de voir dans un type qui monopolise le pouvoir depuis plus de 20 ans une forme de dictature. Tout de suite, les grands mots. Non, Vladou, c'est juste un dirigeant aux méthodes pragmatiques. D'autres leaders avant lui ont eu ce problème de perception du grand public, comme ce grand ami de Stéphane, qui a dirigé à une époque l'Italie.
Mais il a été très décrié, hein, Benito.
A tordo, évidemment. Non, Poutine, c'est pas un dictateur, loin s'en faut. Il a simplement mis un peu d'ordre dans un pays qui en avait grand besoin. Tout est plus clair, plus simple, maintenant plus transparent en Russie. Si tu émets une critique du gouvernement, en prison. Loi sur l'opposition. Tu es une ONG ? Ah, tu peux être une ONG, mais ça va te coûter cher d'exister. Loi sur les associations. Tu es gay, ça va encore plus vite. Loi qui criminalise toutes les actions publiques menées par la communauté LGBT. Tu défends les droits de l'homme ? Non, ne défends pas les droits de l'homme, c'est mieux. Homme du passé sur le plan des mœurs, homme de son temps sur le plan des nouvelles technologies, je ne reviendrai pas ici sur la ridicule rumeur voulant que Poutine serait intervenu dans l'élection présidentielle américaine de 2016. Ah non, alors pipo russe, s'il vous plaît, russe. Un très vilain rapport des services de renseignement publié en 2017 croit pouvoir affirmer que Poutine lui-même aurait ordonné une campagne destinée à fausser la perception que les internautes avaient d'Hillary Clinton, améliorant ainsi les chances de son gros poteau Donald Trump. Oh, ce que les gens n'auraient pas imaginé parfois quand même, c'est n'importe quoi. Côté vie privée... Ah, pardon, nos amis du consulat me signalent qu'on n'a plus le temps d'aborder la vie privée du président Poutine. C'est dommage, parce que d'après un ami bien informé, Poutine, dans sa jeunesse, c'était un garçon...
qui en avait une grosse, paraît-il.
Non, un sacré Don Juan, Stéphane, un sacré Don Juan. Bref, longue vie au plus démocrate des présidents du G8, dont les détracteurs prétendent que non content de confisquer le pouvoir, il aurait également profité de ses 20 ans justement au pouvoir pour se faire des couilles en or, Zolotny et Chari, baliverne de Jean Foutre. Une fois de plus, selon le Kremlin, le président gagne seulement 112 000 dollars par an, point barre. Bon, la CIA estime plutôt sa fortune entre 70 et 200 milliards de dollars. Mais peut-on faire confiance à la CIA, Stéphane ?
Connasse.
Mais voilà, Stéphane, c'est très bien. Ochen Khalacho, l'attaché du consulat, me signale que si vous voulez tourner un secret d'histoire à Moscou, c'est quand vous voulez, Stéphane.
Merci, Mathieu.
On vous recevra avec un tapis rouge.
Ah, bah écoutez, oui. C'était 99% vrai. Bon, il y a donc 1% de choses un peu...
Non, tout est vrai. C'est vraiment un très bon président pour la Russie. Oui, il a fait beaucoup de choses très bien.
Et les Russes, le plébiscite.
Les Russes, le plébiscite toujours.
Ouais,
et... Et puis l'opposition n'est pas muselée du tout. Donc c'est un soutien total et qui est tout à fait légitime.
Europe 1, historiquement vôtre.